une à 7h, donc Théo, de la neige fondue maintenant en Ile-de-France.
Quelques centimètres tombés cette nuit, déjà en train de fondre, on fait le point dans un instant. 5 jours pleins d'écoles pour des journées moins chargées, autant de vacances scolaires mais seulement 2 zones. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant rend son rapport. La proposition américaine pour l'Ukraine est un bon plan car il propose la paix selon Emmanuel Macron, mais il faut une paix juste et durable, dit le président, et qui souhaite le corriger. Content de leur victoire, le 15 de France s'est imposé 48 à 33 face à l'Australie hier au Stade de France. Nous entendrons l'un des buteurs.
Bon réveil et bienvenue dans votre 7-10.
Les toits parisiens enneigés, les pelouses blanches, ce sont les images de la nuit. Mais pas de quoi ce matin faire de bonhommes de neige en Ile-de-France. Entre 1 et 4 cm de neige sont tombés. La Seine-et-Marne reste en vigilance orange, neige, verglas, tout comme 6 départements du centre de la France, de la Haute-Vienne au Puy-de-Dôme et l'Aveyron. Sur les routes, la glace s'installe entre Paris et Château-Thierry ou pour aller dans le nord de la France. Vigilance aussi dans le massif central entre Limoges et Clermont-Ferrand, mais aussi sur les routes nationales et départementales, dans le Cantal notamment.
Également dans l'actualité de ce dimanche matin, Théo, 20 propositions pour adapter les temps de l'enfant à l'école.
C'est la fin de 5 mois de travail pour les 130 Français tirés au sort pour une convention citoyenne. Ils vont remettre leur rapport au gouvernement, des propositions pour favoriser l'apprentissage, le développement et la santé des enfants, Noémie Bonin.
Alors, ces citoyens proposent de réorganiser la journée scolaire avec un début de cours retardé à partir de 9h seulement au collège et au lycée. Ils souhaitent aussi placer les enseignements théoriques le matin pour consacrer l'après-midi à des activités pratiques, sport, art, mais aussi ateliers de la vie courante, bricolage, cuisine, couture, ménage, plomberie ou encore gestion financière et même préparation aux impôts. Les devoirs devraient pouvoir être faits beaucoup plus à l'école pour ne laisser que des petites révisions à la maison, défendent les participants à cette convention. Pour alléger les journées scolaires, ils imaginent en contrepartie une semaine d'école à 5 jours, du lundi au vendredi. Et sur les vacances, sujet peut-être le plus sensible, ces citoyens ne veulent pas les réduire ou les modifier, mais juste passer de 3 zones à 2 pour alterner plus équitablement les semaines d'école et celles de congé. Ça permettrait aussi à toutes les régions d'avoir au moins une semaine en commun.
Noémie Bonin, spécialiste éducation de France Info. 6000 personnes ont marché hier à Marseille en hommage à Mehdi Kessassi, 20 ans, tué il y a 10 jours. Son frère, le militant Amine Kessassi, a appelé à entrer en résistance contre le narcotrafic sans céder à la peur. Mais après cette marche blanche, comment le combat va-t-il se poursuivre? Mathilde Vinceneux, vous avez rencontré deux éducatrices des quartiers nord de Marseille lors de cet hommage.
Dans la foule, Sabrina a du mal à trouver les mots, secouée par l'émotion. L'assassinat de Mehdi Kessassi, c'est un assassinat de plus, encore un de trop, dit-elle. Éducatrice, elle sait l'emprise des réseaux de trafic de drogue dans les quartiers nord et elle a récemment quitté son poste.
Je travaillais dans la protection de l'enfance et c'était un de mes combats, c'était les enfants qui tombaient dans le narcotrafic. J'ai arrêté parce que c'était plus possible de supporter la mort de chacun de ses enfants. Et j'espère que Marseille va vraiment lutter contre parce qu'il faut arrêter. Il faut qu'on arrête tout ça. Donc là, c'est un début peut-être à quelque chose de nouveau. Qu'on dise non ensemble, en fait.
Je ne sais pas si ça va changer grand-chose.
Fatima, elle travaille et vit depuis de longues années dans les quartiers nord de Marseille.
Moi, mes enfants ont vu des morts. En jouant au foot, ils ont vu des gens se faire tuer. Moi, j'habite dans un grand quartier, je le vis au quotidien, je suis éducatrice comme Sabrina. Et on voit cette jeunesse perdue. On a l'impression qu'elle n'est pas aidée. On va envoyer les CRS pendant 2-3 jours et après ils s'en vont. Là, il faut faire un travail de fond, vraiment. Des aides dans les quartiers pour ces jeunes-là.
Des services publics, des subventions pour les centres sociaux. Voilà ce que réclament ces éducatrices qui ont bien du mal à croire au sursaut politique, malgré la présence d'élus de tous bords lors de cet hommage.
Mathilde Vinceneux, correspondante de Radio France à Marseille.
Responsables ukrainiens, américains et européens se réunissent aujourd'hui en Suisse.
Pour discuter du plan de paix de Donald Trump pour la fin de la guerre en Ukraine, Kiev craint d'être poussé à capituler face à la Russie, un plan qui inquiète les Ukrainiens. Le plan américain reprend des exigences de Moscou, notamment la cession de territoire et la diminution de la taille de l'armée ukrainienne. Ce plan doit être revu, selon le président français Emmanuel Macron.
Il y a un plan de paix qui est arrivé. Il est bon dans le sens où il propose la paix. Mais c'est une base d'un travail qui doit se reprendre. Parce que ce plan aujourd'hui, d'abord, n'a pas été négocié avec les Européens. Or, il stipule pour les Européens beaucoup de choses. Les actifs gelés sont détenus par les Européens. L'intégration européenne de l'Ukraine, c'est dans la main des Européens. Savoir ce que fait l'OTAN, c'est dans la main des membres de l'OTAN. Donc il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas simplement être une proposition américaine, qui suppose une concertation plus large. Toute initiative qui va vers la paix est bonne. Maintenant, nous savons à quelles conditions cette paix est acceptable. Il faut qu'elle prenne en compte les éléments qui permettent une paix juste et durable pour les Ukrainiens et qui prenne en compte les éléments de sécurité pour tous les Européens.
Emmanuel Macron, qui a aussi dit hier toute sa confiance à son chef d'état-major des armées, malgré les propos qui ont suscité la polémique cette semaine devant les maires de France. Le général Mandon a expliqué que face à l'hypothèse d'un conflit armé, notre pays devait être prêt à accepter de perdre ses enfants. Des propos détournés, selon le président de la République, pour faire peur. Le chef d'état-major des armées a pris la parole hier dans l'émission C'est à vous sur France 5 et explique que son but était d'alerter et de se préparer.
Le choc est une réaction humaine et j'ai des amis qui ces dernières heures m'ont écrit, m'ont posé des questions. J'ai moi-même des enfants. Je mesure à quel point certains ont pu être inquiétés. Mais le rôle de cette intervention est d'alerter et de se préparer. Moi, j'ai une grande confiance dans notre pays et dans nos armées. Nos armées sont très fortes. C'est une référence en Europe. Et notre pays a toujours su faire face aux défis. Mais pour faire face à quelque chose, il faut s'y préparer.
Le général Mandon, chef d'état-major des armées. Plus de 80 députés de tous bords plaident dans la tribune dimanche pour l'interdiction de Chine sur le territoire français pour protéger les travailleurs, la santé publique et la planète après la polémique autour de l'installation de la marque au BHV.
France Info 7h06, Théo Metton-Régimbault, près de 200 pays ont signé l'accord de la COP30.
La conférence de l'ONU pour le climat s'est terminée hier soir à Belém au Brésil. Les États réaffirment leur soutien à l'accord de Paris et les pays en développement obtiennent le triplement des financements pour faire face aux dégâts du changement climatique. La déclaration finale appelle aussi à accélérer les efforts pour combler les retards, Sandy Dauphin.
Cette COP au cœur de l'Amazonie n'aura pas été un long fleuve tranquille, mais malgré l'absence des États-Unis, malgré les désaccords, le multilatéralisme a tenu bon, se félicite le président de la COP30, André Correa do Lago.
La circonstance géopolitique est tellement difficile que nous sommes vraiment heureux d'avoir uni tout le monde, 195 pays, et de montrer que le monde prend au sérieux le combat du réchauffement climatique et surtout le monde veut continuer à travailler ensemble.
Reste que pour l'Europe, la déclaration finale manque d'ambition. Jean-Luc Cruc est le ministre fédéral belge du climat.
On n'a réellement pas obtenu le niveau des ambitions qui étaient celles de l'Europe et je crois qu'il faut être correct à cet égard. On ne retrouve, à mon sens, pas suffisamment de références à la sortie du fossile. On ne parle pas de déforestation insuffisante alors qu'on est en Amazonie et qu'il devrait savoir ce que c'est.
Toute autre tonalité, l'Inde juge l'accord significatif. Quant à la Chine, son chef de délégation se dit heureux du résultat de cette COP. Pékin s'inquiète des taxes carbone aux frontières, notamment celles de l'Europe. L'accord prévoit justement d'instituer un dialogue sur le commerce mondial. C'est une première dans les négociations climatiques.
Sandy Dauphin à la COP30 du Brésil.
Le rugby et le 15 de France a achevé, ça y est, sa tournée d'automne.
Avec une victoire face à l'Australie hier soir au Stade de France, succès 48-33 après une première mi-temps équilibrée. Les Bleus ont fait la différence en deuxième période, la satisfaction de l'arrière et buteur des Bleus Thomas Ramos.
Forcément content de cette victoire. Après, je ne sais pas si à la mi-temps on était très serein à 19-19, mais le match a tourné de notre côté ce soir, donc tant mieux. On a eu une meilleure discipline en deuxième mi-temps qui nous a permis d'empêcher cette équipe australienne de venir plus souvent dans nos 22 mètres. Donc voilà, c'est bien terminé avec quand même un score où on met presque 50 points à cette équipe ce soir.
Thomas Ramos, 7h09 sur France Info.
Merci à vous, merci pour l'heure. Théo Metton-Régimbault, c'est précieux à cette heure-ci. Patricia Charbonnier, donc à 7h09, vous nous dites qu'il faut être prudent ce matin encore.
Sur les routes, oui, les précipitations neigeuses faiblissent, mais les conditions météo sont plus difficiles au sol. On a un risque de verglas ce matin, pluie verglaçante entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire et le Massif central. De la pluie sur les régions de l'Ouest, la pluie qui progresse cet après-midi vers l'Est, elle s'étendra des frontières du Nord jusqu'en Bourgogne, en Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire et tout le quart Sud-Ouest avec de bonnes rafales de vent sur l'arc atlantique. Dans l'Est, on avait du soleil hier, c'est très gris aujourd'hui avec quelques flocons de neige sur le nord des Alpes et les températures toujours très contrastées. L'air froid résiste dans l'Est avec 4 degrés cet après-midi à Dijon, mais la douceur revient par l'arc atlantique. 17 cet après-midi à Bayonne, 11 à Marseille et 9 à Paris.
Merci Patricia.
L'œil de Julie, du vendredi au dimanche sur France Info.
Bonjour, c'est Julie Vialon, je vous retrouve chaque fin de semaine, on décrypte ensemble Internet, les réseaux sociaux et la pop culture.
Le vendredi à 7h55 et le week-end à 7h45, retrouvez l'œil de Julie avec Julie Vialon sur France Info.
À suivre d'ici 7h30, des milliers de Marseillais en blanc et pour dire non à la violence des gangs, du narcotrafic, parmi eux des jeunes de la même génération que Mehdi Kessassi. Nous entendrons leur témoignage dans 5 minutes. À suivre aussi 7h20, vos rendez-vous du dimanche, l'histoire d'une femme ukrainienne engagée volontaire dans l'armée de son pays. C'est le livre d'actu. Nous parlons travail aussi et puis on s'intéresse à notre santé au programme ce matin, Julien Méniel.
Aujourd'hui, je vous mets en garde contre ces produits ménagers qu'il ne faut surtout pas mélanger.
Rendez-vous dans un quart d'heure. Avant cela, flocons et route blanchie.
France Info, 7h-10h, Adrien Beck.
Vous avez peut-être remarqué, si vous êtes du côté de l'Île-de-France ou de certains départements auvergnats, du Massif central, ce matin, un peu de neige sur les toits, dans les jardins, sur les trottoirs et sur les routes, on le disait, hein, prudence évidemment. Voilà donc ce qui vous attend du côté du Puy-de-Dôme, du Cantal. Là, vous y êtes relativement habitué. Un peu moins, en revanche, c'est vrai, du côté de l'Île-de-France et même de Paris intramuros, je crois, 2-3 cm cette nuit. La neige est donc passée. On va évoquer la situation sur les routes avec vous, Bastien Salès. Bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Vous êtes responsable des routes en Île-de-France. Avec nous également Sylvain Chave. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous travaillez à Predict Service, filiale de Météo France. D'abord, Bastien Salès, est-ce qu'il y a eu des difficultés à signaler ces dernières heures sur les routes en région parisienne ?
Alors effectivement, on a eu quelques chutes de neige dans toute l'Île-de-France et donc nos équipes ont été mobilisées toute la nuit pour permettre un retour à la normale de la circulation, même si, comme vous le disiez précédemment, il faut rester vigilant avec du verglas toujours possible.
Y compris en Île-de-France, le verglas ?
Y compris en Île-de-France.
Alors, forte mobilisation, on l'imagine évidemment, vous le disiez, des personnels cette nuit, je pense aux saleuses, aux chasse-neige. Ça a été nécessaire quand même, la neige, elle a vraiment tenu sur les routes ?
Alors, ça a été nécessaire, effectivement. Ça a tenu pas partout, mais dans certains endroits, oui. Et donc, on a bien dû sortir des neigeuses saleuses, effectivement.
Est-ce que le fait d'avoir réduit la vitesse de 20 km/h sur les routes, d'avoir interdit aux poids lourds de doubler, ça a eu un effet peut-être sur le risque accidentogène ? Vous n'avez peut-être pas constaté une recrudescence d'accidents par rapport à d'habitude ?
Effectivement, l'impression qu'on a, c'est que ça a été plutôt respecté puisqu'on n'a pas eu, on a eu très peu d'accidents pendant la nuit. Mais donc maintenir cette vigilance et maintenir cette baisse de la vitesse sur nos routes, moins 20 km/h comme vous le disiez, qui a été déterminée par arrêté de la préfecture.
Alors Sylvain Chave, Predict Service, que ce soit sur toute une partie de l'Île-de-France, mis à part peut-être la Seine-et-Marne, ça y est, le gros de l'épisode dépassé.
Oui, effectivement, les précipitations ont concerné la zone depuis hier soir et en cours de nuit. Les précipitations sont globalement restées relativement faibles, mais se sont faites dans un contexte froid, occasionnant donc des chutes de neige, comme vous l'avez évoqué, mais surtout aussi localement des phénomènes glissants, donc qui devaient inciter à la prudence de l'ensemble des usagers sur le réseau routier.
Jusqu'à quelle heure ces phénomènes glissants ce matin, selon vous ?
Alors, nos collègues de Météo France maintiennent la vigilance, donc vous avez évoqué la Seine-et-Marne, mais aussi plus au sud, donc 7 départements, jusqu'à 8 heures, où elle est prévue d'être ensuite levée, puisque les précipitations qu'on a évoquées se décalent maintenant vers l'est, plus à l'est, donc vers la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace en particulier. Donc, l'Eure Douce se fera progressivement, après, à la suite, par l'ouest, de sorte que, en milieu de journée, jusqu'en Île-de-France, on ait des températures positives.
Vous parliez du Massif central, Sylvain Chave. Prudence encore ce matin et toute une grande partie de la matinée, on l'imagine, parce qu'il y a des phénomènes de pluie verglaçante, c'est ça, ou est-ce qu'il neige encore ?
Oui, voilà, effectivement, c'est alors l'essentiel des chutes neigeuses s'est évacué. On garde effectivement la possibilité de pluies faibles ou de bruines qui, dans ce contexte froid, peuvent provoquer rapidement des phénomènes glissants. D'où la prudence, effectivement, sur la matinée.
Alors Bastien Salès, nous revenons en Île-de-France avec vous. C'est vrai qu'on a eu une alerte lancée assez tôt. Alors parfois, c'est vrai que ça suscite un peu un certain nombre de moqueries, notamment de la part des départements alpins qui disent « voilà, vous alertez pour quelques centimètres de neige ». Néanmoins, vous nous le disiez, il n'y a pas eu de difficultés particulières. Est-ce que là est la leçon peut-être pour le reste de l'hiver ? Mieux vaut prévenir trop tôt, ou très tôt même, pour éviter de prendre le moindre risque ?
Exactement. On voit que nos protocoles d'organisation ont bien fonctionné. Effectivement, on s'est mobilisé assez tôt pour déterminer la meilleure méthode pour intervenir cette nuit. Et on voit que ça a fonctionné. Donc on va continuer ainsi. On est rodé pour la suite de l'hiver.
Un dernier mot également avec vous, Sylvain Chave, neige en novembre, je vous épargnerai le proverbe, dans beaucoup d'endroits de France, en tout cas, on n'y est plus forcément habitué, c'est vrai. Est-ce que ça présage forcément d'un hiver neigeux et froid, ou est-ce que là, il faut surtout éviter de tirer la moindre conclusion ?
Bon, je pense qu'il faudra le voir au fur et à mesure des épisodes, mais le fait que la vigilance ait été communiquée hier un peu tôt, ça a permis aussi à l'ensemble des collectivités de s'organiser, de se préparer et de faire face à cet événement, ce qui peut expliquer aussi le bilan qu'on a évoqué juste auparavant. Donc tout ça paraît être positif.
Merci à vous, Sylvain Chave, directeur ingénierie de Predict Service, donc filiale de Météo France. Et merci également à vous, Bastien Salès, vous êtes responsable des routes en Île-de-France. Merci d'avoir dressé avec nous le bilan de cette nuit sur France Info. Bilan, donc, ce que vous nous disiez, assez calme, pas d'incident particulier à signaler malgré quelques chutes de neige et un petit peu de verglas.
À 7h17 sur France Info, il fait moins 4 degrés à Aix-en-Provence.
Tout Marseille n'était pas là, mais ils étaient tout de même plus de 6000 hier, vêtus de blanc, à se recueillir rond-point Claudie Darcy dans le 4e arrondissement, là où Mehdi Kessassi a été tué il y a 10 jours, abattu parce qu'il était le frère d'un militant anti-narcotrafic à seulement 20 ans. Tristan Barrault, les jeunes de la même génération que Mehdi Kessassi, il y en avait quelques-uns hier, vous avez recueilli leurs sentiments, notamment l'inquiétude face à la dégradation du climat à Marseille.
Trois amis venus au rassemblement, Swan, Lison et Olympe, ont entre 14 et 15 ans. Ils habitent à Marseille, à côté du quartier où Mehdi Kessassi a été tué par un commando armé à l'âge de 20 ans.
Et c'est quand même très jeune. Pour la famille, pour tout le monde, c'est dur. Donc nous, on vient vraiment pour soutenir, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et qu'on veut juste que ça s'arrête. Parce que si ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à nous, à tout le monde. On n'a pas envie que ça continue et surtout, on n'a pas envie que la rue, qui est le milieu le plus public et banal, qu'on ne se sente pas en sécurité dans notre propre ville, dans notre propre quartier. On veut stopper ça, quoi.
Alors que la justice étudie la piste du crime d'intimidation visant le frère de la victime, un militant anti-narcotrafic connu, les trois jeunes se sentent directement concernés par la problématique.
Autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la drogue et moi, ça me fait vraiment peur d'être dans le quartier et de ça. Même quand je marche, on ne sent pas super en sécurité.
Dans la rue, il y a souvent ce stress où on se dit faut vite rentrer, on ne sait jamais. Ou même, on préfère prendre les transports en commun, les bus, tout ça, parce qu'on sait qu'il y a plein de monde. Mais des fois, on passe dans les rues, on voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas non plus une peur constante, mais quand même, on sait qu'il faut un peu tracer, quoi.
La peur a certaines heures. Dans certains quartiers, Lucie, la vingtaine, là aussi, cette Marseillaise regrette un manque de perspective positive dans la lutte contre le narcotrafic.
Il y a énormément de jeunes, en effet, à la dérive, qui se font happer en fait, par ce phénomène qui dépasse un peu tout le monde et qui se met à toucher des personnes qui ont en effet rien à voir. Là où avant, dans l'imaginaire collectif, la mafia, c'était un peu un dérèglement de compte, un genre d'entre-soi où ça touchait pas le public à plus grande échelle. Et aujourd'hui, ça fait des victimes vraiment collatérales partout, et ça, c'est inadmissible, et on est complètement contre ça.
Dénoncer les ravages du trafic de drogue, c'était l'un des objectifs de ce moment de recueillement. Difficile néanmoins d'envisager des solutions pour Lison.
Même c'est dangereux, même pour la police, tout ça, mais je pense que ouais, c'est un truc qu'il faut quand même régler vite, parce que ça, on voit que ça touche de plus en plus de civils.
D'autres personnes venues au rassemblement m'ont dit qu'il faudrait un débat national sur la question du narcotrafic.
France Info reportage à Marseille, signé Tristan Barrault. L'essentiel de l'actu tout de suite.
France Info, 7h10.
Il est presque 7h20, on vous retrouve. Diane Ferchit à la une de l'actualité en ce dimanche matin. Donald Trump se dit ouvert à la négociation.
Alors que des pourparlers entre Américains, Ukrainiens et Européens s'ouvrent en Suisse aujourd'hui pour discuter du plan de paix en Ukraine présenté par Washington. Un document en 28 points qui fait craindre à Kiev une capitulation forcée. Cinq jours après ces propos polémiques, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, dit mesurer à quel point certains ont pu être inquiétés par sa prise de parole. Sur France 5 hier, il estime que le choc est une réaction humaine. François Mandon a déclaré mardi qu'il fallait que le pays soit prêt à accepter de perdre ses enfants en cas de conflit armé avec la Russie. 20 préconisations pour mieux répondre aux besoins des enfants. La Convention citoyenne sur les rythmes scolaires rend sa copie ce dimanche. Parmi ses propositions, 5 jours d'école plein par semaine, dès l'élémentaire, autant de vacances scolaires qu'aujourd'hui, mais avec seulement 2 zones ou encore des journées d'école qui ne commenceraient qu'à 9h. Fin de la tournée d'automne du 15 de France de rugby avec ce succès au Stade de France sur l'Australie. Score final 48 à 33. 12 essais inscrits, dont 7 par les seuls tricolores, des bleus qui seront bien tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du Monde. Ce sera dans 10 jours.
France Info.
Et on retrouve nos rendez-vous du dimanche matin, notre livre du jour, notre vie au travail, notre santé bien sûr. Rémi Bostaron, Sarah Lemoine, Julien Méniel, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Sarah, vous allez nous parler santé mentale en entreprise. Julien, vous allez nous dire de ne pas faire n'importe quoi avec nos produits ménagers. Avant cela, Rémi, un livre au cœur de l'actualité ce matin, en ces temps de négociations sur l'avenir de l'Ukraine, ça s'appelle Volia, témoignage d'Anastasia Fomitchova, femme engagée volontaire dans l'armée ukrainienne, c'est aux éditions Grasset.
Oui, c'est le témoignage qu'il faut lire aujourd'hui pour comprendre ce que veut dire concrètement résister au quotidien pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Comme le disait Volodymyr Zelensky lui-même dans son allocution télévisée il y a 2 jours, ce sont avant tout des êtres humains qui depuis 4 ans retiennent l'une des plus grandes armées du monde. Et parmi ces êtres humains, il y a donc Anastasia Fomitchova, une jeune femme née à Kiev mais qui a grandi en France. Elle était étudiante à Paris en février 2022 quand l'invasion russe a commencé. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Elle a décidé de rentrer en Ukraine. Elle raconte ce voyage en bus, ce moment vertigineux où elle quitte notre monde, le monde des gens qui boivent un café, qui prennent le métro pour aller travailler, pour se retrouver des heures plus tard dans son pays natal avec, dit-elle, le sentiment de marcher vers la mort.
Et ce sentiment ne l'empêche pas de s'engager dans l'armée.
Non, elle s'engage comme infirmière de combat. Elle se retrouve au plus près de la ligne de front et elle fait dans ce livre le récit de tout ce qu'on découvrirait comme elle si on se retrouve soudainement plongée dans la guerre, le contact avec le métal froid d'une arme qui devient pour elle comme un doudou rassurant, les instructions qu'elle doit donner pour ses funérailles, l'argent qui n'a plus aucune valeur, les pensées parfois surprenantes qui lui traversent l'esprit quand elle se dit qu'à tout moment un obus peut mettre fin à sa vie, et puis tous ces corps fracassés, ensanglantés qu'elle doit manipuler, une horreur qu'elle affronte avec de l'humour noir omniprésent, et avec cette fameuse Volia, qui est le titre du livre. Volia, c'est un mot ukrainien qu'on peut traduire à la fois par volonté et par liberté.
Et puis dans ce livre, évidemment, Rémi, il y a aussi un message qu'elle nous adresse.
Oui, à nous qui sommes loin de ce quotidien qu'elle raconte, nous qui n'avons pas connu comme sa famille et toutes les familles d'Ukraine les souffrances infligées par l'impérialisme russe depuis plus d'un siècle, la famine des années 30, la terreur stalinienne, Tchernobyl. Elle nous le dit, si nous sous-estimons cette menace mortelle, si l'on refuse d'ouvrir les yeux, alors les ténèbres continueront à gagner du terrain. Et comme un écho au débat de ces derniers jours sur la préparation des Français à la possibilité d'une guerre, elle rappelle que les Ukrainiens non plus n'étaient pas prêts à rejoindre les tranchées, mais face à la Russie, ils n'ont pas eu le choix.
Merci Rémi, ça s'appelle donc Volia d'Anastasia Fomitchova aux éditions Grasset. Le travail à présent, elle est là pour aider à accompagner, prévenir aussi. Sarah, vous nous parlez ce matin de la charte pour la santé mentale. Depuis son lancement en août, 150 entreprises l'ont signée. Alors, elles s'engagent à quoi, Sarah, ces entreprises ?
Eh bien, les entreprises qui ont signé cette charte vont devoir structurer un plan d'action sur 3 ans. Premier objectif, faire sauter les tabous autour de la santé mentale en communiquant largement sur le sujet auprès des salariés et du comité de direction. Ensuite, former les managers et développer une culture de dialogue permanent sur les conditions et l'organisation du travail, et puis aussi améliorer continuellement ces dernières. Il leur faudra enfin accompagner individuellement leurs salariés en souffrance psychique. Pour mesurer les progrès accomplis, les 150 entreprises signataires s'engagent à sonder une fois par an leurs salariés sur les actions menées. Les données permettront également de comparer les pratiques et d'être une source d'émulation. Le premier questionnaire partira courant 2026.
Alors quel est le profil des entreprises signataires de cette charte ?
Alors certaines sont déjà très engagées interrogées sur la question, d'autres moins, souligne Angèle Malâtre-Lansac, la déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, l'organisation à l'initiative de cette charte. Parmi les signataires, des grands groupes privés, des structures publiques, mais aussi de petites et moyennes entreprises. Parmi ces dernières, le bureau d'architectes ENIA, qui emploie 90 salariés. Il s'est engagé sur la santé mentale il y a 10 ans, en acceptant d'aider au retour à l'emploi de personnes qui ont eu des troubles psychiques graves. L'entreprise a déjà mis en place un certain nombre de procédures en interne et revu certaines façons de travailler. Mais Brice Piechazik, l'un des fondateurs d'ENIA, dit rester humble face à ce sujet. Selon lui, la population des architectes est confrontée à des rythmes de travail intenses, des relations parfois tendues avec les clients. Il constate une sursensibilité au stress bien plus forte qu'il y a 10 ou 15 ans. Alors dans le cadre de la charte, il compte notamment former plus spécifiquement ses deux responsables de ressources humaines à la santé mentale.
Bon, et les entreprises qui signent, pour certaines, cherchent aussi à se situer par rapport à d'autres ?
Oui, c'est le cas d'Éric Dana qui dirige CMPS, une entreprise d'assurance en protection sociale. Il souhaite savoir comment le sujet de la santé mentale au travail est abordé et traité dans d'autres secteurs d'activité que le sien, afin d'enrichir ses propres solutions. Selon lui, l'entreprise est un SaaS qui doit permettre d'identifier et d'alerter sur le mal-être d'un salarié, sachant que l'entreprise peut aussi en être la cause. L'objectif de l'Alliance pour la santé mentale est d'atteindre 3000 organisations signataires d'ici 2028.
Merci à vous, Sarah. Terminons avec vous, Julien. On vous retrouve équipé de votre balai, de vos chiffons, de votre serpillière, avec un conseil bien utile en ce dimanche matin, où on peut d'ailleurs tous en profiter pour faire le ménage. Attention au mélange de produits ménagers.
Oui, si vous êtes adepte des petits conseils de ménage sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez sûrement déjà entendu tout un tas de conseils, dont celui-ci. Utilisez un mélange de bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour nettoyer vos surfaces, le classique. Et bien pourtant, si ces deux produits peuvent effectivement être efficaces séparément, ils ne le sont pas du tout quand on les mélange.
Mais pour quelle raison ?
Parce qu'il y a une réaction chimique qui se fait, ça provoque...
Ouais, ça fait pchit un peu.
Ça fait pchit, ça provoque une effervescence qui peut effectivement un petit peu décoller la saleté. Mais par contre, elle annule surtout les propriétés respectives des deux produits. Et pire, si vous forcez la dose, ça peut créer des projections et vous n'avez pas envie d'avoir du vinaigre dans les yeux.
Oui, c'est vrai.
Et attention, ce mélange est loin d'être le plus problématique.
Bon, on évite quoi d'autre comme mélange, Julien ?
Pour rester sur le vinaigre blanc, son association avec de l'eau oxygénée, ça crée de l'acide peracétique qui est irritant à la fois pour la peau, les yeux et les muqueuses. Et mélangé à l'eau de Javel, le même vinaigre crée un dégagement de chlore gazeux qui peut entraîner des intoxications. De la même manière, si vous utilisez de l'eau de Javel avec un produit à base d'ammoniac, vous allez fabriquer des chloramines qui peuvent gravement irriter les voies respiratoires et provoquer jusqu'à des suffocations. Et c'est pas fini. Eau de Javel plus alcool ménager égale chloroforme et acide muriatique. Très toxique également, etc., etc. Et pas besoin de faire le mélange dans une bouteille pour que ce soit dangereux. Rien que le fait d'utiliser les deux produits successivement sur une surface ou dans la cuvette des toilettes, par exemple, ça peut suffire.
Bon, ça fait quand même beaucoup de cocktails à éviter. Comment on arrive à se souvenir de tout ?
Alors déjà, vous avez compris, l'idée, c'est de ne jamais mélanger l'eau de Javel avec n'importe quel autre produit.
En fait, on évite les mélanges globalement.
Voilà, globalement, dans le doute, ne mélangez aucun produit ménager et ne les utilisez pas les uns juste après les autres. Et puis, deux derniers conseils, avant d'utiliser un produit d'entretien pour la première fois, même sans parler de mélange, jetez un œil à l'étiquette, lisez les recommandations, vérifiez les petits pictogrammes. Et quand vous faites le ménage, pensez à bien aérer la pièce dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, n'attendez pas forcément d'avoir la serpillière à la main. Ouvrez vos fenêtres au moins 10 minutes tous les jours, même l'hiver, parce que contrairement à ce qu'on pense, l'air est souvent plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Merci à tous les trois. La météo arrive tout de suite.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Certains ont un peu frais, Patricia Charbonnier ce matin, d'autres un peu moins frais.
Ah, c'est très contrasté ce matin. On a de fortes gelées encore sur les régions de l'Est avec moins 8 degrés Strasbourg, moins 6 degrés Nancy. Et la douceur revient, la douceur atlantique, le long de l'arc atlantique. Il fait déjà 13 degrés ce matin à Brest et Quimper. Et entre les deux, de la pluie ou même un risque de pluie verglaçante. Attention ce matin encore entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre-Val de Loire et le Massif central. De la pluie sur l'ouest, la pluie qui gagne un petit peu plus vers l'est cet après-midi. Ça restera sec près des frontières de l'Est et dans le sud-est, mais là le ciel est couvert avec des températures pour cet après-midi qui repartent à la hausse. On va retrouver des valeurs de saison sur une bonne partie du pays. Ça reste encore froid dans l'est. 4 degrés cet après-midi à Dijon, 7 à Lille, 8 à Montélimar, 9 à Paris, 11 à Marseille, 13 à Brest, 15 à Bordeaux, 17 à Biarritz.
À quoi va ressembler, si vous le voulez bien, notre début de semaine, Patricia ?
Alors déjà, c'est la fin vraiment de cette cet épisode neigeux et hivernal. On retrouve des températures de saison. Elles vont baisser un petit peu en milieu de semaine, mais vraiment, on restera à 1 ou 2 degrés au-dessus des normales. On n'est pas sur les températures de la semaine dernière, mais ça s'annonce très agité lundi, mardi, avec de la pluie et encore de la neige, de bonnes chutes de neige lundi et mardi en moyenne montagne.
Voilà, dans certaines stations, jusqu'à plus d'un mètre en quelques jours. Merci Patricia Charbonnier et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, 7h30. Essentiel de l'actualité, Théo Metton-Régimbault.
Les prothèses mammaires en silicone peuvent provoquer une inflammation et déclencher une maladie auto-immune. C'est une information que vous révèle France Info ce matin après une étude du CHU de Besançon. 400 000 femmes sont concernées par ces prothèses en France, souvent après un cancer du sein. Anne Lordanier, les chercheurs se sont intéressés à 50 d'entre elles.
Ils ont prélevé des tissus dans le sein de 43 patientes qui devaient changer leur prothèse mammaire et ils ont découvert la présence de microparticules de silicone et de cellules du système immunitaire, celles qui sont chargées de nettoyer ces corps étrangers. L'équipe a aussi détecté l'activité de plusieurs gènes associés à des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Ils ont donc établi le lien entre la présence de silicone et une réponse immunitaire de la patiente. Mais il n'y a pas forcément de quoi s'affoler, rassure le docteur Isabelle Pluvy, qui a mené l'étude.
Le fait d'avoir de l'inflammation, ça ne veut pas dire forcément être malade. Toutes les patientes ont un petit niveau d'inflammation qui est plus ou moins intense selon le modèle de prothèse, par exemple, et selon l'état de la prothèse. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose pour lequel il faut s'inquiéter. Mais par contre, il faut réaliser comme un suivi régulier de ces implants pour dépister une éventuelle évolution vers ce type de maladie.
Le docteur Pluvy espère que sa découverte permettra d'améliorer ces implants mammaires en silicone pour en fabriquer une nouvelle version qui stimulera moins le système immunitaire des patientes.
50 000 personnes ont défilé hier à Paris pour dire leur colère face à la persistance des violences faites aux femmes et réclamer un plus grand effort budgétaire. 17 000 personnes selon la police, autant dans le reste de la France. Réunion commune de responsables ukrainiens, américains et européens en Suisse aujourd'hui pour discuter du plan de paix en Ukraine proposé par les États-Unis mais très défavorable aux Ukrainiens. Le président américain a fait savoir hier que ce plan n'était pas sa dernière offre et qu'il voulait la fin des combats d'une manière ou d'une autre. Emmanuel Macron plaide pour une relation apaisée avec l'Algérie tout en réaffirmant que beaucoup de choses restaient à corriger entre les deux pays. Réaction lors du G20 et 10 jours après la libération de l'écrivain Boualem Sansal emprisonné pendant près d'un an en Algérie. Coup d'envoi ce dimanche de la campagne municipale pour la France Insoumise. Convention à Aubervilliers au nord de Paris. Les Insoumis n'ont qu'une dizaine de mairies, surtout des petites villes ou des villes moyennes. Elia Bergel, pour la première fois, le mouvement se lance vraiment dans cette élection.
Oui, les Insoumis changent de braquet. Résumé de Paul Vanier, le monsieur élection de LFI.
En 2020, nous étions en soutien à des listes citoyennes dans un peu moins d'une centaine de communes. Et en 2026, nous serons présents dans plus de 500 communes.
Comme à Lyon, derrière la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, qui promet un programme de rupture pour la ville.
La réquisition des logements vacants, il y a un enfant sur cinq qui va à l'école le ventre vide. Nous proposons des petits déjeuners gratuits, une cantine gratuite.
À Lyon, comme à Paris ou Marseille, les Insoumis envoient des candidats contre des maires sortants, écologistes ou socialistes. La division, ce n'est pas nous, se défend pourtant Manuel Bompard, coordinateur national LFI.
J'observe pour l'instant que le Parti Socialiste, en l'occurrence, a dit dans ses différentes communes qu'il ne pouvait être question de faire alliance avec la France Insoumise, ni au premier, ni au second tour.
Ça sera très dur de remporter des villes, reconnaît toutefois un député insoumis. Selon un cadre du parti, LFI ne dirige qu'une dizaine de mairies pour le moment, des communes de taille moyenne ou de petite taille. Mais cette irruption des Insoumis au municipal fait enrager au PS. Un maire qui se représente l'an prochain accuse LFI de vouloir, je cite, « plumer la volaille socialiste ».
Elia Bergel, service politique de France Info. La neige fond déjà en Ile-de-France après être tombée cette nuit, 4 petits centimètres. La Seine-et-Marne reste en vigilance orange, neige, verglas, tout comme 6 départements du centre de la France, de la Haute-Vienne au Puy-de-Dôme et l'Aveyron. Attention sur les routes vers l'est, le nord et dans le massif central.
Merci à vous Théo Metton-Régimbault pour l'info. On passe au sport à 7h34.
France Info Sport avec Omiris. Alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Grecknaps.
Bonjour Noureddine Zidane.
Bonjour Adrien.
Nous commençons avec de la Formule 1. Tiens, une fois n'est pas coutume et les choses se précisent pour le titre mondial.
Oui, même si les jeux ne sont pas encore faits à Las Vegas, Lando Norris a pris une sérieuse option en se classant il y a tout juste une heure deuxième derrière Max Verstappen. Le Britannique leader du classement pilote accentue son écart sur son dauphin et coéquipier Oscar Piastri. 30 points désormais d'écart entre les deux hommes alors qu'il n'en reste plus que 58 à distribuer sur les deux derniers Grands Prix. Chez les dames, l'édition 2025 de la F1 Academy a déjà livré son verdict et c'est la Française Doriane Pain, 21 ans, qui est couronnée après sa 5e place à Las Vegas.
En rugby, une pluie d'essais hier soir au Stade de France.
12, dont 7 pour le 15 de France qui termine sa tournée d'automne sur une bonne note. Victoire 48 à 33 face à l'Australie. Et hier soir, Vincent Pellegrini, un joueur s'est particulièrement distingué et il s'appelle Louis Bielgaré.
La pépite du rugby français s'était déjà illustrée en début de match en offrant le premier essai tricolore à son coéquipier en club, Nicolas Deporter. Mais c'est à la 31e minute qu'il a réalisé son chef-d'œuvre de la soirée, une percée fulgurante sur son aile, un coup de pied à suivre parfaitement dosé et un essai bienvenu à ce moment du match.
Je suis content parce que c'est un moment où voilà, on était un peu au coude à coude avec l'Australie et c'est un essai qui nous fait du bien, surtout vu de notre première mi-temps où on est très indiscipliné, même trop, et où en défense on subit beaucoup, donc c'est un essai qui fait du bien pour l'équipe.
Pas franchement à son aise lors des deux premiers matchs de cette tournée d'automne, Louis Bielbiéré a étalé hier soir tout son talent. L'expérimenté Gaël Ficou est admiratif.
C'est un joueur avec des qualités exceptionnelles, une mentalité exceptionnelle et s'il en est là, c'est pas pour rien, donc je suis très content pour lui. Il a une humilité remarquable, des capacités rugbystiques remarquables. Il va aller très loin. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que c'est un vrai plus pour l'équipe de France et la personne aussi est exceptionnelle, donc c'est important de le souligner.
Louis Bielbiéré a inscrit un nouvel essai en fin de match. À 22 ans, ses statistiques en bleu donnent le vertige. Il compte désormais 20 essais en 22 sélections.
Louis Bielbiéré est d'ailleurs nommé pour le titre de meilleur joueur du monde, mais c'est finalement le talonneur sud-africain Malcolm Marx qui a été récompensé hier par World Rugby.
En foot, le PSG retrouve sa place de leader de la Ligue 1.
Après son succès 3-0 contre le Havre, les Parisiens reprennent 2 points d'avance sur l'OM et sur Lens, vainqueur de Strasbourg 1-0. Une excellente opération pour les 100 et or qui repoussent les Alsaciens à 6 longueurs. Juste derrière, Rennes remonte à la 5e place. Après avoir largement dominé 4-1, le Monaco de Paul Pogba entré à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Un retour après plus de 2 ans sans compétition officielle.
Et j'attendais ça avec impatience. Bien sûr, ce n'était pas le résultat qu'on attendait, mais le coach m'a donné cette chance-là de rentrer. Ça pouvait être quelqu'un d'autre aussi. La sensation, c'était bonne en fait. Je voulais essayer d'apporter une bonne énergie et prendre du plaisir, bien sûr, parce que là, ça fait longtemps quand même. Il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme. Essayer de faire un match de 90 minutes et d'aider l'équipe.
Suite et fin de la 13e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 5 matchs au programme, dont Lille-Paris FC à 20h45. Les nordistes ont l'occasion de revenir au pied du podium au détriment de Strasbourg.
En ski, il n'osait pas arriver du podium, mais Pablo Rasa a fait une course vraiment au-delà de ses espérances.
Oui, 14e seulement de la première manche à Görgl en Autriche, le slalomeur savoyard a fait une seconde manche exceptionnelle pour s'imposer pour la première fois en Coupe du Monde.
C'est une journée de dingue, je ne pensais pas que c'était possible de faire ça un jour. Donc voilà, il y avait une première manche où les sensations n'étaient pas terribles, les écarts très serrés. Et voilà, je savais que tout pouvait être possible en deuxième manche. J'essayais de skier le plus vite possible. Mais voilà, de là à imaginer grimper jusqu'au podium et jusqu'à la première marche du podium, c'est une sensation de fou. Voilà, je porte le dossard rouge de la Coupe du Monde. Je vais le porter en France, à Val d'Isère, dans 2 semaines. Donc je suis très content.
Enfin, en tennis de table, Félix Lebrun remporte le tournoi de Mascate face à son frère Alexis. C'était le dernier tournoi avant les finales du circuit à Hong Kong, où l'on retrouvera la fratrie ainsi que Simon Gauzier. Ce sera du 10 au 14 décembre.
Voilà, Mascate au Sultanat
d'Aumont.
Exactement. Merci à vous, Noureddine Zidane, pour les sports. Et à tout à l'heure, 7h38 sur France Info. Vous restez avec nous au programme d'ici 8h. Rythme scolaire, le mot déchaîne les passions. La Convention citoyenne sur le sujet rend ses travaux et ses propositions veulent tout chambouler. Ça, on en parle tout de suite. 8h moins le quart. Comment soutenir Kiev sans fâcher Donald Trump? Le défi des Européens qui s'invite à Genève aujourd'hui à la table des négociations sur l'Ukraine. Décryptage à suivre. Et puis, dans 20 minutes, ce sera l'œil de Julie Vialon qui va nous parler des films que l'on trouve de plus en plus longs quand on va les voir au cinéma. Alors est-ce parce que c'est la mode ou est-ce nous qui avons changé d'état d'esprit? Julie nous dira tout. 7h39.
France Info. 7h10. Adrien Deck.
Les vacances scolaires sont-elles trop longues? Les semaines d'école sont-elles trop chargées? Les enfants ont-ils suffisamment de temps pour faire du sport? Vous avez sans doute un avis sur la question. Voilà que la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant rend le sien, 130 citoyens tirés au sort, convention voulue par Emmanuel Macron. Alors va-t-on assister à une petite révolution à l'école? On en parle avec vous, Jean-Carl Deschamps, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info, en studio, membre du comité de gouvernance de cette convention. D'abord, le premier constat qu'ont fait ces 130 citoyens tirés au sort, c'est que les journées de cours, eh bien, elles ne sont pas forcément adaptées au rythme, on va dire, biologique des enfants, c'est ça?
Oui, et plus globalement, les rythmes de vie imposés aux enfants. La Convention citoyenne ne portait pas spécifiquement sur le temps scolaire, mais sur les temps de vie de l'enfant, donc d'une manière globale. Et ce que constate la Convention, c'est une fragmentation à l'extrême, totalement inadaptée aux besoins physiques, psychiques des enfants.
Pour être très concret, si on prend l'exemple de l'école, on va parler de ça ce matin, ça veut dire qu'une journée de cours qui commence à 8 heures, dans certains cas, c'est trop tôt par exemple.
Oui, c'est effectivement l'une des propositions que font les citoyens, que de décaler le début de l'école à 9h. Ils ont d'autres propositions concernant l'école.
On va les détailler.
Et nous allons les détailler.
Alors attendez, ça voudrait dire début des cours à 9h à l'école contre 8h, 8h30 dans certains cas aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Ça a fait consensus.
Ça a fait consensus au sein de la Convention citoyenne, bien sûr. Oui.
On pense quand même, malgré tout, dans ce cas-là, aux parents qui ont un travail, peut-être, quelquefois, qui doivent aller au travail à 8h30, 9h, dans certains cas. Est-ce que ça s'est pris en compte? Est-ce que ça a été travaillé, ça? Ça obligerait à changer, j'allais dire, toute l'organisation familiale?
La Convention citoyenne, ce sont 130 citoyens qui sont réunis pendant 6 mois, à raison de 7 week-ends de 3 jours, et qui ont, dans leur première partie de leurs travaux, auditionné plus de 80 experts, acteurs de terrain, dont des représentants de parents, mais qui ont aussi mobilisé un panel de 20 jeunes qui ont eux-mêmes travaillé pendant 2 fois 3 jours et fait leur propre proposition. Et cet été, rencontré à travers 30 espaces territoriaux, des enfants en accueil de loisirs,
donc
des enfants en
école. Donc ce que vous
voulez
nous dire, c'est que c'est représentatif.
Ce que je veux vous dire, c'est que cette convention n'a pas inventé
des
choses.
Elle n'est pas hors sol, quoi.
Elle n'est pas hors sol. Elle est constituée de citoyens qui n'ont pas forcément de rapport avec les enfants directs aujourd'hui, parce que, comme moi, d'un grand âge, par exemple. Mais elle a fait le travail qu'on lui a demandé. Et ses propositions, effectivement, elles bousculent. Quelle que soit la proposition, alors, elle va bousculer.
Justement,
sauf à ne rien changer.
Détaillons encore la question aussi de l'organisation des semaines de cours est évoquée. On sait qu'il y a toujours la question des 4 jours, 4 jours et demi. Et bien là, la proposition, elle est tout autre.
Elle est tout autre. Elle est sur 5 jours, du lundi au vendredi, avec plutôt une orientation vers des cours le matin d'apprentissage réflectif, si j'ose
théorique,
dire. Théorique, mais d'apprentissage fondamentaux. Merci, c'est dur le dimanche matin pour moi. Et puis l'après-midi, plutôt sur des apprentissages de savoir-faire, de savoir-être.
Cours éventuellement de couture, de cuisine, et même cours pour les impôts, pour apprendre comment faire payer ses impôts. Tiens.
C'est une demande des jeunes qui ont travaillé là-dessus, effectivement, que d'avoir des approches de la vie quotidienne. Mais bien au-delà de ces quelques exemples qui peuvent être effectivement importants, il y a toute la partie des savoir-faire et des savoir-être, du vivre ensemble, et puis toutes les activités sportives et culturelles qui sont extrêmement importantes et qui ont d'ailleurs un rapport. Quand on fait du théâtre avec des gamins, on fait aussi de l'apprentissage des situations.
Sur les activités sportives, par exemple, les jeunes qui se sont exprimés disent « on a envie d'en faire davantage ».
Bien sûr, les jeunes et les moins jeunes.
Alors, il y a aussi, évidemment, ça c'est un sujet serpent de mer, marronnier, appelez-le comme vous voulez, qui revient tout le temps, les vacances. Emmanuel Macron, tiens, s'est dit plusieurs fois, tenté de raccourcir les vacances d'été. On écoute le chef de l'État, c'était lors d'un échange avec un élève au mois de février à Colmar.
La question qu'on peut se poser pour nos enfants, c'est de savoir s'il ne faut pas un peu revoir les vacances, pour pouvoir décontraindre un peu les semaines pour mieux apprendre. Il y a beaucoup de pays qui partent en vacances, par exemple, qu'à partir du 14 juillet l'été. C'est vrai qu'on a des vacances qui sont très très longues l'été, ce qui fait d'ailleurs pour les enfants qui ne sont pas accompagnés forcément dans leur famille, ils vont perdre souvent du niveau scolaire.
Alors que dit cette convention sur les vacances d'été ?
La convention, elle dit que sur les vacances d'été, il n'y a pas de consensus pour faire bouger les choses. Qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs de réels problèmes. Par contre, elle dit que le rythme scolaire annuel est au-delà des vacances d'été, avec ce qu'on appelle les petites vacances, celles du printemps, de l'hiver ou de l'automne, il y a à revoir les choses pour qu'il y ait une alternance 7 semaines de cours et d'école et 2 semaines de vacances qui soit plus respectée, parce que cette alternance est la nécessité de base.
On a l'impression que les vacances, elles s'enchaînent un petit peu, ou que certains ont des plages sans vacances un peu trop longues.
Absolument, il y a notamment à travers le fait qu'il y ait beaucoup de zones de vacances sur l'hiver, à revoir cela. C'est pour ça que la Convention propose de passer de 3 à 2 zones.
Alors là, la question que je vous pose, c'est, ça voudrait dire donc des plages de vacances moins longues. Est-ce que, je pense par exemple aux vacances, les vacances de Noël, alors là c'est même pour tout le monde, mais les vacances d'hiver qui s'étalent, et on pense aux professionnels du tourisme, est-ce qu'en l'espèce, il y en a qui ont été auditionnés?
Bien sûr, parmi les 80...
Ils sont d'accord avec ça?
Ah, nous n'avons pas dit, et la Convention n'a pas dit qu'ils étaient tous d'accord. D'ailleurs, si quelqu'un avait la baguette magique, je pense que le président de la République n'aurait pas posé cette question à 130 citoyens. Ce qui fait la spécificité d'une Convention citoyenne, justement, c'est que ce sont des citoyens tirés au sort qui n'ont aucun intérêt à titre personnel et qui ont choisi d'accepter de dépasser leur propre approche et leur propre, quelquefois, conviction pour ensemble donner un avis partagé. Et cet avis, il est très consensuel, puisque les 20 propositions ont chacune été votées à plus de 70%.
Alors, ce qui fait aussi la particularité des conventions citoyennes, on se rappelle qu'il y en a eu une sur le climat, qui a laissé un peu un goût amer à ses participants, une autre sur la fin de vie, là, qui est plus suivie, le texte poursuit son chemin, c'est qu'elle est les conclusions sont adoptées ou ne sont pas adoptées. Est-ce que là, vous avez des indications sur le fait que ces conclusions pourraient être reprises, sinon par le ministère de l'Éducation, en tout cas peut-être par les rectorats, je ne sais quoi.
La spécificité d'une convention citoyenne, c'est d'apporter une réponse à une question précise. Ce que les citoyens ont fait, ils ont joué le jeu, ils se sont fortement mobilisés. Il appartient maintenant effectivement aux politiques, aux décideurs publics de se réapproprier cela. Est-ce que nous avons des garanties d'application? Oui, la prise en compte par notamment le gouvernement, mais aussi le président de la République, est annoncée. Nous attendons d'ailleurs
le rapport
le
sera
moment,
remis.
La remise du rapport. Est-ce que les politiques prendront leurs responsabilités? Eh bien, c'est à eux d'en juger. En tout cas, nous ne pouvons pas penser que 130 citoyens mobilisés pendant 6 mois sur une question aussi essentielle, qui est quand même celle de l'avenir de la France. D'ailleurs, le manifeste que les citoyens ont voté hier le rappelle pour sa conclusion, ne puisse pas être suivi des faits.
Merci beaucoup.
Merci
Jean-Carl
à vous.
Deschamps, membre du comité de gouvernance de la Convention donc citoyenne sur les temps de l'enfant. Merci d'être venu nous en détailler les résultats ce matin sur France Info.
7h47 sur France Info, il fait moins 4 degrés à Dijon.
Ils ont été écartés de l'élaboration du plan Trump pour l'Ukraine. Les Européens vont tenter quand même de l'amender, de le modifier. Le plan reprend, il est vrai, une grande partie des demandes de Moscou. Alors aujourd'hui, à Genève, aux côtés des Ukrainiens, des Américains, des émissaires français, allemands, britanniques notamment, seront là. Ils ont dû quitter le G20 direction la Suisse. Bonjour Frédéric Saïs. On vous retrouve en Afrique du Sud, Frédéric, Johannesburg, lieu de ce G20. Complètement bousculé, donc.
Au cours de cette première journée du G20 à Johannesburg, il devait être question de la croissance, du climat et de la dette des pays pauvres. Mais très vite, les réunions informelles se sont multipliées en marge du sommet. À la mi-journée, Emmanuel Macron s'est enfermé avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz. Réunion ensuite ouverte à d'autres pays européens, ainsi qu'au Canada et au Japon, tous membres de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Inquiets et sidérés par l'ultimatum américain, ils ont tenté de dégager une position commune. C'est une ligne de crête, explique un diplomate européen hors micro. D'un côté, la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. De l'autre, notre lien avec les États-Unis. Autrement dit, comment soutenir Kiev sans rompre avec Washington? Les Européens ont choisi de ne pas braquer Donald Trump dans un communiqué. Ils estiment que le plan du président américain est une base de travail, je cite, mais ils rappellent aussi que les décisions qui concernent l'Europe ne peuvent pas être prises sans elle.
Voilà, les dirigeants européens qui envoient donc leurs conseillers diplomatiques négocier à Genève aujourd'hui, Frédéric, mais est-ce que l'Europe a vraiment une marge de manœuvre face à ce plan de Donald Trump ?
Alors hier soir, Donald Trump a montré un signe d'ouverture. Interrogé pour savoir si ce plan, c'était son dernier mot, le président américain a répondu non. Mais la philosophie de ce plan, elle, est assumée par l'exécutif américain. Le vice-président J.D. Vance estime qu'il s'agit de la seule proposition réaliste, sous-entendu, proposition qui tient compte du terrain conquis par les Russes. Pour J.D. Vance, les détracteurs du plan Trump vivent, je cite, dans un monde fantasmé où la victoire de l'Ukraine est à portée de main. Un discours qui fait écho à la dernière rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. C'était il y a un mois. Le président ukrainien avait été fortement incité, déjà à l'époque, à céder des territoires à Moscou. Donald Trump, en difficulté sur la scène politique intérieure, espère obtenir cet accord de paix avant jeudi, jour de la fête de Thanksgiving aux États-Unis.
Merci à vous Frédéric Saïs, l'un des envoyés spéciaux de France Info au G20 de Johannesburg en Afrique du Sud. On vous rappelle l'essentiel de l'actualité dans quelques secondes.
France Info, 7h-10h.
À suivre, signe d'un changement de climat politique. Les associations d'aide aux migrants ont de moins en moins de moyens. On vous raconte ça donc dans une minute, juste après l'essentiel de l'actualité avec vous, Diane Ferchit, à 8h-10. Et à la une, attention, au verglas dans le Massif central.
6 départements du centre de la France sont toujours en vigilance orange, neige et verglas ce matin, de la Haute-Vienne à l'Aveyron, ainsi que le département de Seine-et-Marne. L'Île-de-France, où la neige est tombée au cours de la nuit, 1 à 4 cm en moyenne. Plus on sera nombreux, moins ce sera possible de nous faire taire. Ce sont les mots d'Amine Kessassi hier à Marseille lors de la marche blanche organisée en hommage à son frère assassiné. Plus de 6000 personnes étaient présentes. Amine Kessassi se bat contre les narcotrafiquants. Les enquêteurs envisagent la piste du crime d'avertissement. Les négociateurs ukrainiens, américains et européens se réunissent en Suisse ce dimanche au sujet du plan de paix en Ukraine. Plan présenté par les États-Unis. C'est une base de travail qui doit se reprendre, estime Emmanuel Macron. Mais toute initiative qui va vers la paix est bonne, souligne le chef de l'État. Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro reconnaît avoir utilisé un fer à souder pour tenter d'ouvrir son bracelet électronique. Dans une vidéo rendue publique par la Cour suprême, il affirme l'avoir fait par curiosité. Jair Bolsonaro est en détention provisoire. En septembre dernier, il a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État.
France Info. Elles sont régulièrement pointées du doigt à droite et à l'extrême droite, présentées comme complices des passeurs de l'immigration illégale. Les associations d'aide aux migrants se retrouvent dans la tourmente financière entre fuite des donateurs privés, baisse des subventions publiques pour certains responsables du secteur. Agathe Mahuet, financer ce type d'association est devenu trop clivant.
C'est ce que dit l'association française Singa, présente dans 10 pays et qui vise à mieux intégrer les personnes exilées grâce à des financements essentiellement privés. Son président Benoît Hamon affirme que 30% du budget de l'association a été remis en question en un an, notamment à cause du climat actuel aux États-Unis.
Nous subissons la décision de plusieurs grandes entreprises internationales présentes sur le marché américain de se désengager des causes que jusqu'ici elles finançaient en matière d'inclusion des personnes réfugiées. On a eu des déclarations de l'administration américaine, Donald Trump lui-même, très hostile à la diversité, à l'inclusion et des intimidations en direction des entreprises américaines ou européennes présentes sur le sol américain pour qu'elles arrêtent leur politique de mécénat ou leur politique d'inclusion.
Résultat, c'est inédit, Singa passe aussi cette année par une cagnotte citoyenne.
On est obligé, c'est la première fois qu'on le fait, de faire appel à une campagne de financement participatif pour aller demander aux Français qui pensent que l'importance de révéler les talents et le potentiel des nouveaux arrivants est une question importante. On leur demande de compenser les reculs de nos financements.
De nouveaux alliés, toutefois, se manifestent dans la tempête, explique Benoît Hamon, citant la Fondation Crédit Mutuel, par exemple, qui vient de s'engager pour la cause à rebours du climat actuel. Toutes les associations d'aide aux migrants ne reposent pas forcément sur ce type de mécénat, mais même les subventions publiques semblent devenues frileuses pour ces causes, analyse le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice.
On voit bien que ces actions-là et ces politiques sont au cœur de ce qu'on pourrait appeler la bataille culturelle en cours, aux États-Unis comme en Europe. Quand vous voyez tous les débats idéologiques sur l'assistanat, je mets les guillemets, ou quand vous voyez les crispations autour de la question des étrangers, je vous confirme qu'il y a effectivement un raidissement du débat public qui, à mon avis, est l'une des raisons pour lesquelles les associations de solidarité subissent une baisse de leurs subventions.
Un repli tel qu'une association de solidarité sur trois est aujourd'hui menacée en France, d'après le dernier rapport de la Fédération.
Agathe Mahuet. Et c'est l'heure de retrouver l'œil de Julie. Bonjour Julie Vialon.
Bonjour.
Et ce matin, disons-le, on a tous déjà renoncé à regarder un film. Pourquoi ? Parce qu'il était trop long. Tiens, un dernier exemple en date, on sait désormais que le nouvel Avatar, le 3, va faire 3h15. Et c'est vrai que sur les réseaux, Julie, les internautes s'interrogent.
The Batman, 2h56. Babylone, 3h09. Boys Afraid, 2h59. Une bataille après l'autre, 2h42.
Ça fait beaucoup là, non ?
Et la liste est encore longue. Ces films sont sortis ces dernières années et il faut avoir la vessie bien accrochée pour tenir toute la séance sans faire une pause pipi. Et certains internautes s'en plaignent sur TikTok.
Mais c'est quoi ce bordel ? 3h15. 3h15 pour Avatar 3, ça vient de tomber. C'est Monsieur James Cameron qui l'a annoncé. Mais qu'est-ce qu'ils vont raconter en 3h15 ?
Nous sommes nombreux à avoir l'impression que les films sont de plus en plus longs. Mais c'est peut-être bien une hallucination collective. Mmh. En fait, la durée des longs métrages n'a pas vraiment bougé depuis les années 1920. 1h50 en moyenne, d'après le journal Le Monde. Les films longs, voire très longs, existent depuis des dizaines d'années. Lawrence d'Arabie, Autant en emporte le vent, Ben-Hur, Titanic, tous durent plus de 3 heures.
Bon, sauf qu'on a quand même bel et bien l'impression que c'est plus long, comment on l'explique ?
Déjà, les blockbusters se sont répandus. Ils sont devenus un genre à part entière au cinéma. Les Marvel, la saga Harry Potter, des films souvent très longs et qui marchent très bien. Et d'après Mélanie Toubeau de la chaîne YouTube La Manie du Cinéma, ils sont plus projetés et restent plus longtemps en salle que les autres. Donc forcément, ça nous donne l'impression de voir plus souvent des films longs.
Et puis, vous parliez d'hallucination collective. Là-dedans, il y a le streaming aussi qui joue un rôle.
Avec un abonnement mensuel, on a accès à un nombre de films incalculable. Quand on regarde un film à la maison, on peut facilement mettre pause pour aller chercher des pop-corns ou jeter un œil à nos téléphones. Alors, on regarde des vidéos sur les réseaux, parfois même en accéléré. Alors, regarder un film pendant 3 heures sans rien faire en même temps, c'est compliqué. Ouais. On n'a plus l'habitude, le temps nous paraît long. Selon Mélanie Toubeau, c'est peut-être même le cinéma qui devrait s'adapter à ses spectateurs en réhabilitant les entr'actes.
Ouais,
pourquoi pas ? En fait, les films ne sont pas plus longs qu'avant, c'est nous qui sommes moins patients.
Bon voilà, et votre chronique, Julie Vialon, qui elle passe très vite, puisque elle ne dure, rappelons-le, qu'à peine plus de 2 minutes. Merci Julie.
7h56 sur France Info, il fait moins 1 degré à Reims.
Allez, un peu de musique avant de retrouver votre journal de 8h avec les coups de cœur du service culture de France Info ce matin. Matteo Maestrachi, le groupe anglais The Stone Roses, un de ses membres éminents, est mort cette semaine d'ailleurs.
Gary Monfield, plus connu par son surnom de Manny, qui est décédé jeudi à 63 ans. Il était né en novembre 1962 à Crumsall, dans la banlieue nord de Manchester, dans une famille d'origine irlandaise. Et c'est après avoir quitté l'école à la fin des années 70 qu'il avait rejoint le groupe The Stone Roses en 1987 en remplacement de Pete Garner, bassiste original du groupe. 2 ans plus tard, en 1989, sort le désormais culte premier album éponyme des Stone Roses, porté par la chanson « I Wanna Be Adored ». Stone Roses qui personnalise alors totalement le mouvement appelé Madchester, jeu de mots avec Manchester, sorte de mélange entre dance, pop et rock psychédélique, en compagnie notamment des Happy Mondays. Et sur ce disque, considéré maintenant comme un des plus influents de l'histoire du rock, la basse de Manny est un point cardinal important de l'ensemble, comme sur cet autre extrait, She Bangs the Drums. Gary Monfield participe aux 2 albums studio des Stone Roses. Le deuxième, Second Coming, sort en 1994, 2 ans avant la séparation du groupe. Disque plus rock, on y retrouve entre autres ce titre « Love Spreads ». Après l'aventure Stone Roses, Manny avait rejoint le groupe écossais Primal Scream jusqu'en 2011, année où il était revenu en arrière en reformant le groupe mancunien qui a repris le chemin de la scène avec même quelques morceaux inédits jusqu'en 2017. Gary Moonfield était aussi un grand fan de fléchettes et du club de foot local de Manchester United.
Matteo Maestracci, la météo tout de suite.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Patricia Charbonnier, nous avons eu pour certains en tout cas de la neige, maintenant...
Attention,
retour
ça glisse.
À l'habitude, la pluie.
Oui, il y a de la pluie qui arrive par l'ouest, mais avant la pluie, on a encore des températures négatives sur une bonne moitié est du pays. Donc au contact de cet air froid, on a un risque de pluie verglaçante ce matin sur les Hauts-de-France, sur l'Île-de-France, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre-Val-de-Loire et le Massif central. La pluie, c'est pour l'ouest du pays ce matin. Ensuite, cette zone de pluie va se décaler vers l'est. On la retrouvera cet après-midi entre les frontières du Nord, le Centre-Val-de-Loire jusqu'au sud-ouest, avec de bonnes rafales de vent, en particulier sur les côtes atlantiques. Dans l'est, ça reste sec, mais c'est moins agréable qu'hier. Hier, c'était très ensoleillé. Aujourd'hui, le ciel sera couvert avec des températures contrastées. On a encore de fortes gelées ce matin dans l'Est. Moins 8 degrés à Strasbourg, moins 6 degrés à Nancy, moins 3 degrés à Lyon. Mais le redoux se confirme